Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Aparté. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un dont la voix te sera peut-être familière, puisqu'il s'agit de Thomas. Thomas qui anime la chaîne YouTube CoqAdmin, que tu connais certainement, et si tu ne connais pas, je ne peux que t'encourager à aller voir sa chaîne YouTube, c'est absolument excellent. Bonjour Thomas.
Salut Christophe, comment ça va?
Ben ça va très bien, et toi? Je suis content de t'accueillir.
Bah oui, ça fait plaisir.
Bah oui, surtout qu'on n'a pas vraiment encore eu le temps de vraiment discuter, pourtant on se croise depuis un petit moment.
Mmh. Ouais, on s'était vu dans le... Est-ce que t'étais venu sur le live de Xavki à un moment, ou je confonds?
Oui, j'étais venu sur le live de Xavki, mais j'étais parti quand t'es arrivé avec le décalage horaire. Moi, je suis un couche-tôt, donc c'est pour ça.
Ouais, bah, c'est ça, on s'est croisé là-bas.
On s'est croisé là-bas. Bah écoute, j'ai plein de questions à te poser. Yes. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill?
Allez, allons-y.
Bon alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es?
Ok, ben, moi c'est Thomas, je travaille, donc j'habite au Canada, à Montréal, donc au Québec. Donc je suis français à la base, mais ça fait maintenant 11 ans que je suis à Montréal. Et donc je suis plus connu sous le nom de CoqAdmin, parce que je fais des vidéos sur YouTube autour du DevOps, du cloud, de Linux, des choses comme ça. Et en gros, j'essaye parfois je fais un petit peu des petits tutos sur des technos ou des techniques que j'ai découvertes au fil du temps. Puis plus récemment, je fais un petit peu plus des vidéos de style où je raconte une histoire, donc soit une histoire personnelle, soit l'histoire de quelqu'un d'autre, soit même l'histoire de l'informatique en général. Donc avec par exemple des vidéos sur Linus Torvalds ou des choses comme ça. Et j'essaye en gros de le raconter de manière un petit peu marrante, donc en gros raconter des histoires autour de ce thème-là, du DevOps, Linux, etc. quoi.
On va revenir justement sur tes vidéos plus tard. Il y a une question que je pose régulièrement à mes interviewés, c'est quelle est ta définition du DevOps? Alors je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Pour moi, la version courte, c'est une suite d'outils et de processus pour pouvoir améliorer la vélocité de déploiement. Donc, c'est pas une description super, c'est une description bien parce qu'elle est courte, mais pas bien parce qu'elle utilise plein de mots compliqués pour rien. Mais ouais, si je devais simplifier, ce serait juste, en fait, c'est juste aller plus vite, en fait, juste faire en sorte que tu déploies des features le plus rapidement possible, quoi. Avec le moins de friction, le moins de souffrance possible.
Pour toi, c'est un peu accélérer le business de l'entreprise?
Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un petit peu lié au business d'entreprise parce que c'est le but, c'est que une entreprise, si elle met en place des fonctionnalités plus rapidement, et ben, ça lui donne un avantage par rapport à sa compétition, parce qu'elle peut tester plus de choses, elle peut peut-être prendre plus de risques, elle peut aussi avoir un meilleur product market fit, dans le sens ça veut dire en gros faire une fonctionnalité qu'elle pense que ses utilisateurs vont avoir besoin, et puis très rapidement avoir la réponse. Est-ce que oui, les utilisateurs aiment ça ou est-ce qu'ils n'aiment pas ça? Alors que si on prend un petit peu l'ancienne méthode où, c'est comme il y a longtemps où on faisait le logiciel et on sortait la version 1.0. Et puis là, les gens l'utilisaient. Et puis là, on commençait à réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on va mettre dans la 2.0? Puis là, on développe pendant 2 ans. Et puis la deuxième année, on sort, ça y est, aujourd'hui, la 2.0, elle vient de sortir. Et puis, sauf que dans la 2.0, il s'est passé 2 ans depuis, et puis les utilisateurs ont peut-être évolué, il y a peut-être d'autres outils, d'autres produits concurrents qui sont sortis depuis ce moment-là. Et donc les features qu'on a prévues il y a 2 ans et qui sortent maintenant, et bah peut-être qu'elles correspondent plus à ce que les gens veulent. Et donc, là, c'est un petit peu exagéré, mais si c'est un peu le concept, si on arrive à lancer des fonctionnalités, corriger des bugs, etc., le plus rapidement possible, et bah on peut instantanément, enfin du moins très très rapidement, savoir si c'est ça que nos utilisateurs ont besoin ou pas, et donc du coup ça devient effectivement un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, je me retrouve beaucoup dans cette définition-là. Et toi, comment est-ce que tu as rencontré le DevOps? C'était quoi ta première... comment t'en as entendu parler et comment tu l'as mis en place? Comment tu l'as intégré dans ta vie plutôt?
Je pense la première fois que j'en ai entendu... je pense que la première fois où j'ai eu un poste de DevOps... Alors, je me souviens, j'ai regardé sur LinkedIn, c'était quoi mon poste officiel. Mais je pense que la première fois où j'avais le poste officiel de DevOps, je faisais pas vraiment... Alors, même si, effectivement, il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas un poste. Ah non, ok, c'était système admin. Ok, donc ça tombe bien. La première fois que j'ai eu un vrai poste de DevOps, c'était quand j'ai commencé à travailler dans une petite entreprise de jeux vidéo, de jeux mobiles. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'était un poste de DevOps, entre guillemets, sauf que quand je suis arrivé dans l'équipe des sysadmins, ce qui est un petit peu contradictoire. Et donc, on était trois sysadmins et on essayait de maintenir tous les jeux que l'entreprise avait. Je sais plus, il y en avait combien, il y avait peut-être 6-7 jeux qui tournaient en production. Et puis, ça se passait pas très très bien. C'est probablement pour ça aussi qu'ils essayaient de scaler un peu l'équipe des sysadmins, parce que forcément, il y avait beaucoup de petites infras différentes, et donc beaucoup de petits problèmes à régler à droite à gauche. Et justement, tu vois, la vélocité, donc en gros la vitesse avec laquelle on arrivait à mettre des choses en production, c'était pas super mauvais non plus, mais c'était pas incroyable, ça pouvait être mieux, et c'est surtout au niveau des déploiements où ça se passait quand même assez mal. Il y avait des déploiements qui prenaient, sans exagérer, qui prenaient comme 6 heures, 8 heures, qui prenaient toute la journée, quand on commençait le déploiement genre le matin à 10h, 11h, et le soir, le jeu était toujours down, on avait toujours des problèmes, etc. quoi. Donc ça s'est passé un petit peu mal, ça a commencé à s'aggraver petit à petit, parce que forcément, ça arrive une fois, bon ok, deux fois, trois fois, puis tu sais, quand ça arrive... 4 fois sur 4 déploiements, bah, ça commence à remonter un petit peu. Et donc, finalement, ce qui a été décidé, c'est de mettre les 6 admins dans les équipes de jeux. Donc, en gros, les 3 plus gros jeux de l'entreprise, elles ont eu chacun un des 6 admins. Et puis, on continue un petit peu vite fait à s'occuper des autres plus petits jeux. Mais en gros, on était quand même, c'est partie intégrante de l'équipe de développement. Comme on faisait partie de l'équipe, on était aussi assis au même endroit que là où il y avait toute l'équipe, donc on faisait vraiment partie à 100%, quoi. Non seulement hiérarchiquement, au niveau d'organisationnel, mais aussi au niveau physique, être assis à côté. Et ça, ce changement, il peut paraître bête, parce que souvent, on s'attend à utiliser des techniques, à utiliser des outils, à quel outil vous avez utilisé, quel cloud vous avez utilisé, etc. Mais là, on n'a rien fait tout ça. En fait, on a continué à utiliser ce qu'on avait déjà, mais juste le fait, en gros, de changer la chaise de place, ça fait une énorme, énorme différence sur comment ça se passait, en gros, par rapport au déploiement. Et puis, moi, j'ai vraiment vécu ça comme ça, où le fait de changer de place, ça m'a permis de vraiment comprendre c'était quoi les problèmes des développeurs, de pouvoir les aider beaucoup plus rapidement, d'avoir aussi plus d'empathie, parce que quand il y a un problème en production et que tu dis ah putain c'est encore les devs, ils ont fait de la merde, etc., parce que le développeur il est genre 3 étages au-dessus, tu le vois pas, tu sais pas c'est qui, tu vois ce que je veux dire, c'est difficile d'avoir de l'empathie, alors que quand le mec il est à côté de toi, et bah t'as plus tendance à avoir envie de l'aider, tu vois, et que ça se passe mal, bah t'es juste là à côté, tu peux dire ah non, peut-être que t'aurais dû faire ça à la place ou quoi. Et vice versa aussi, il y a aussi plein de choses que les développeurs peuvent faire pour simplifier la vie d'un système, et ça, juste le fait d'être à côté, ça améliore énormément la collaboration, et pour moi c'est un petit peu ça c'est pas ça entre guillemets le DevOps, mais pour moi ça a été ça ma première approche, ma première vision, où je me suis vraiment dit putain, en fait ça paraît bête, mais ça marche vraiment, quoi.
Oui, mais en plus, du coup, dans ce que tu me dis, t'as pas juste dépassé ta chaise, vous avez carrément été intégré à l'équipe. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup ce format d'équipe. C'est celui que je pratique. Le fait que l'ops, il est dans la même équipe que les devs, et du coup, ça fait que les objectifs, ils sont communs aux deux. Ça, tu l'as vécu comment, le fait justement que tes objectifs aient peut-être changé par rapport à ce que tu avais avant dans l'équipe où tu étais?
Bah, c'est vrai que je pense que ça fait une grosse différence parce que par exemple quand il y a un déploiement sur un par exemple si je m'occupe de je sais pas 3-4 jeux et qu'il y a un des il y a un déploiement à faire sur un des jeux et que ça se passe mal, bah bon, au final je vais pas dire je m'en fous mais je veux dire tu sais, bah, je laisse les devs en gros de alors faut pas croire que je suis non plus le grand méchant qui laisse les gens dans la merde exprès mais je caricaturise un petit peu mais je peux les laisser dans la merde et puis je vais pas dire c'est pas mon problème mais je vais dire tu sais, je me dis bah ok bah il y a un problème au niveau du code ils vont le régler et puis ils le règlent ça prend le temps que ça prend puis tant pis pour eux tu vois alors que quand c'est mon équipe et bah je suis plus c'est mon but tu vois genre si si le déploiement y a un problème etc bah c'est je me sens personnellement affecté quoi donc effectivement ouais, ça fait une énorme différence le fait de réaligner les buts maintenant mes buts c'est exactement le même que les développeurs quoi. C'est mon but, c'est que le jeu il marche bien, le jeu soit le plus populaire possible, qu'on puisse rajouter le plus de fonctionnalités possible, qu'on puisse corriger tous les bugs et que les déploiements se passent bien quoi.
Bon, ça c'est génial. Et du coup, est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça a changé finalement dans ta vie de cette expérience-là et le fait que tu continues dans ce mouvement DevOps? Tu sais que moi, pour moi, c'est pas un poste, c'est un mouvement. Mais du coup, ça a changé quoi en professionnellement dans ta vie?
Je saurais pas vraiment quoi te dire ce que ça a vraiment changé. Moi, je pourrais pas vraiment dire ce que ça a changé vraiment dans ma vie, même professionnellement. Bah, c'est sûr que professionnellement, comment dire, dans la manière dont t'interagis avec les gens, c'est sûr que bah, quand ça se passe mieux, c'est quand il y a moins de pression, que tu sais que les que qu'on voit qu'on arrive à être plus efficace, plus rapide, que tout le monde n'est pas en train de transpirer pendant 6 heures parce qu'il y a un bug que personne n'arrive à trouver, etc. Bah, forcément, tu vois, dans tes interactions avec tes collègues, dans ton équipe, bah, ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Donc, avant qu'on fasse ce changement-là dans cette équipe-là, il y avait un petit peu des tensions quoi, entre les sysadmins et les développeurs. Alors que après avoir fait ce changement-là, et bah, ça se passait super bien, quoi. Moi, je m'entendais super bien avec les devs, on rigolait ensemble et tout. Et puis c'était forcément à vivre, c'est beaucoup plus cool, quoi.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de YouTube, parce que toi et moi, on est sur YouTube.
Yes.
Et toi, toi, tu as commencé déjà avant moi. Et c'était quoi pour toi le déclic pour ouvrir ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à l'ouvrir?
Moi, j'ai fait. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai toujours été un petit peu attiré par YouTube. J'ai toujours regardé, et même jusqu'à aujourd'hui, je regarde énormément, énormément de YouTube. Maintenant, on a les stats sur. On peut regarder ça, on peut savoir combien d'heures de YouTube on regarde par semaine. Et pour moi, c'est assez élevé. Et donc, bref. Et donc, j'ai toujours eu cette petite idée-là en tête. Mais j'ai jamais vraiment. Tu vois, j'ai jamais vraiment acté dessus. Je pense que le déclic, ça arrivait à un moment où je me suis blessé les bras. Je sais plus si c'était un. Je pense que c'était à moitié à l'escalade, à moitié en skateboard, j'ai dû tomber. Bref, je me suis fait mal aux avant-bras. Et donc, du coup, pour taper au clavier, forcément, 8 heures par jour, on est sur le clavier, on doit taper avec. Et moi, ça me faisait énormément, enfin, ça me faisait super mal aux bras. Donc, il y avait des jours, genre, je travaillais une demi-heure, puis après, genre, pendant tout le reste de la journée, j'avais super mal aux bras. Et ça m'a fait me remettre un petit peu en question, me dire, est-ce que. Si par exemple, si là je me. Donc là, bah, évidemment, maintenant ça va beaucoup mieux, etc. Mais sur le moment, je me suis dit, bah, si je me suis fait vraiment mal au bras et que jusqu'à la fin de ma vie, je vais devoir souffrir tous les jours au travail, peut-être qu'il va falloir commencer à songer à faire autre chose, quoi. Est-ce que, en gros, et c'est là où je commençais à me remettre en question, en gros, qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Et donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que... Est-ce qu'il y avait un thème ou quelque chose dans ma vie que j'aimais vraiment faire, ce qui n'était pas forcément évident, parce que je pense que je suis quelqu'un qui... J'ai pas comme une passion, tu vois, il y a des gens, ils ont une passion, c'est toute leur vie, c'est comme, je sais pas, l'aviation ou les Lego, ou je sais pas, tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par un truc et puis c'est genre toute leur vie. Et moi, c'est pas vraiment mon cas, je suis un petit peu plus éparpillé, tu sais, j'aime bien plein de trucs différents, puis ça change au fur et à mesure du temps. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, qui ressortait assez souvent, c'est le fait d'essayer d'apprendre quelque chose aux autres. Depuis que je suis plus petit, je faisais par exemple sur les forums à l'époque, je faisais souvent des tutos pour expliquer des choses aux gens. Quand j'étais à l'école, je faisais des cours pour, par exemple, je me débrouillais bien en sécurité et en Linux. Et donc du coup, je faisais des cours pour les autres élèves, en plus bénévolement, tu vois, pour les aider à passer leurs examens, etc. Après ça, du coup, mon école, elle m'a pris pour pouvoir justement donner des cours de manière plus officielle. Et de manière générale, j'aime bien expliquer des choses, j'aime bien essayer de mettre à la place de quelqu'un pour pouvoir lui expliquer de la meilleure manière. Et donc, c'est un thème que j'ai retrouvé presque tout au long de ma vie, que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et donc, j'ai mêlé ça avec cette envie de créer une chaîne YouTube pour pouvoir... Parce que je pense que c'est un peu lié, hein, ça devait être, je devais vouloir faire une chaîne YouTube pour pouvoir partager un petit peu ce que c'est. Parce qu'au fur et à mesure, parce que ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je travaille, donc au fur et à mesure, il y a plein de petites astuces et de petits trucs que j'ai appris. Je me suis dit, ah putain, si je connaissais ça... si on m'avait appris ça quand je débutais, ça m'aurait vraiment vraiment servi. Et donc c'est un petit peu tout ça mélangé qui a créé le déclic, où je me suis dit je pense que ça vaut le coup, que je pense que c'est le moment que je fasse ça, que je fasse une petite chaîne YouTube. Et donc on en est là aujourd'hui.
D'accord. Bah du coup, ça tombe bien que tu me dises que t'aimes bien apprendre les choses aux gens, parce que en préparant l'émission, tu m'avais parlé de mentor. Et de mentorat, et tu sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que toi, tu as des mentors, et est-ce que tu mentors des gens actuellement?
Alors, c'est quelque chose... Ouais, effectivement, moi, c'est quelque chose que je prends en compte quand je change de travail. Donc, premièrement, tu sais, je regarde si l'entreprise elle me plaît, je regarde si la mission, elle est intéressante, etc. Et je regarde aussi si l'équipe dans laquelle, ou les gens avec lesquels je vais travailler, est-ce qu'ils vont pouvoir me tirer vers le haut? Est-ce qu'en gros, ils ont... est-ce que quand je discute avec eux, je me dis, ah vraiment, cette personne, elle sait vraiment de quoi elle parle, elle a l'air d'être vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Et donc, c'est sûr que si je travaille avec cette personne-là, ben moi, je vais apprendre beaucoup d'elle, quoi. Donc, je sais pas si c'est vraiment avoir un mentor en tant que tel, mais par contre, c'est quelque chose que le fait d'aller travailler quelque part et de pouvoir apprendre des autres personnes, c'est quelque chose que je prends en compte et qui est important pour moi. Et donc, effectivement, là, dans l'équipe dans laquelle je suis actuellement, il y a quand même quelques personnes qui sont vraiment, vraiment calées dans tout, quoi. Il y en a qui sont super calés dans le cloud, super calés en Linux, super calés dans plein de sujets. Parce qu'il y a aussi ça aussi dans le DevOps, c'est qu'on touche aussi à pas mal de sujets différents. Et donc, ouais, on pourrait considérer que j'ai des mentors, ou du moins des gens à qui je sais que j'ai confiance, que je peux me référer si jamais je suis pas sûr de ce que je fais, si jamais j'ai besoin de conseils ou quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très cool, parce que quand j'ai débuté par des petites entreprises. Et ce qui est cool, parce que tu peux faire un petit peu ce que tu veux quand t'es un petit peu tout seul, le seul sysadmin, quand t'es un ou deux ou quoi. Par contre, ce qui est un petit peu moins bien, c'est que si tu fais n'importe quoi, personne va te le dire, en gros. Donc, t'apprends par toi-même, mais il y a des choses, des trucs un peu méta, ou des bonnes pratiques, ou des choses comme ça, que si on te le dit pas, ou si tu tombes pas dessus, tu vas jamais le savoir. Et donc, ça m'est arrivé de faire des choses, de penser que ce que je faisais c'était super bien, et puis 2-3 ans plus tard, en rétrospective, je repense à ce que je faisais, je me dis, j'étais nul, je faisais de la merde, en fait. Genre, c'était stupide la manière dont je faisais, mais c'est parce que j'avais personne pour me dire, en fait, ok, là, ce que tu fais, ça marche, mais c'est pas l'idéal, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir des gens à qui se référer. Et sinon, pour la deuxième partie de la question, est-ce que j'ai des mentorés? Ouais, donc en fait, je travaille avec Open Classroom. Donc Open Classroom, ils font des cours gratuits, probablement vous connaissez. Si vous ne connaissez pas Open Classroom, avant ça s'appelait le site du zéro, où il y a plein de tutos sur plein de choses. C'est un peu la bible de, j'allais dire en informatique, mais maintenant ils font plein de trucs différents. Maintenant ils font aussi du project management et des trucs du style. Mais bref, ils ont énormément de contenu super bien. Et ils ont une offre payante pour apprendre des métiers. Et donc, quand tu fais cette offre-là, quand tu suis leur parcours, bah t'as accès aux cours comme tout le monde, mais t'as aussi des espèces d'exercices, des projets, en fait. Et t'es accompagné par quelqu'un chaque semaine pour pouvoir voir où t'en es, essayer de donner des conseils, etc. Et puis moi, c'est ce que je fais, en gros. Donc j'accompagne 4 ou 5 étudiants en ce moment. À devenir essayer de d'apprendre toutes les techniques et les méthodes et les bonnes pratiques d'administration système, du cloud et du DevOps.
En fait, je me dis, t'as un boulot, tu as ta chaîne YouTube, tu mentores des gens, mais où tu trouves tout ce temps-là? Parce que en fait, t'as commencé il y a un an sur YouTube, t'as déjà 10 000 abonnés. Déjà, bravo, hein, parce que c'est pas facile, je pense, d'avoir 10 000 abonnés comme ça sur des thématiques où on est. Et comment est-ce que tu t'organises finalement entre ton travail, tes formations, tes vidéos et puis tes mentorés pour comment tu gères en fait ton temps entre tout ça?
Mais ça me fait rire un peu que tu me poses la question, parce que peut-être que de ton point de vue, on dirait que je fais un milliard de trucs et que je suis super bien organisé, etc., alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Si tu regardes là sur ma chaîne, là, j'ai pas posté de vidéo depuis un mois là maintenant. Bon, j'ai fait un live il y a une ou deux semaines, mais tu vois, un live, c'est un peu une excuse pour. Enfin, tu sais, y a rien à faire, quoi. T'appuies sur live et puis tu dis n'importe quoi pendant deux heures et tu rigoles et puis c'est fini, tu vois. Donc là, je suis en train de préparer une vidéo en ce moment, mais là, je suis pas très très régulier en ce moment. Le mentorat, c'est simple parce que tu sais, c'est prévu, quoi. Puis c'est pas comme si c'est pas quelque chose. Ça demande pas énormément de travail, avant ou après, quoi. C'est juste, je me pointe à l'heure où c'est prévu, et puis je réponds aux questions, j'essaie de donner deux, trois petites astuces, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin de, qui me prend beaucoup de temps avant ou après, quoi. Les formations, ça par contre, ça prend beaucoup de temps, mais du coup, c'est pour ça que j'en ai pas tant que ça, j'en ai que deux en ce moment. Maintenant, ça fait un an que j'ai commencé à que j'ai fait la première, donc j'en ai fait deux en un an, donc c'est vraiment pas tant que ça. Et puis YouTube, c'est assez par période. Parfois parfois j'arrive à me motiver à rester consistant, à sortir toutes les semaines, et parfois je suis un peu moins consistant là comme en ce moment, et ça tombe à une par mois.
Bon, t'as atteint justement le niveau où l'attraction démarre vraiment bien et où les gens vont regarder toutes tes vidéos dès qu'ils arrivent.
Là, l'avantage aussi, c'est que je me repose un peu sur le fait, c'est ça, que comme ça fait à peu près un petit peu plus d'un an que j'en fais, et qu'il y a des périodes où j'ai été assez régulier, je commence à avoir un assez bon catalogue. Et donc, du coup, c'est ça, quand les gens ils découvrent ma chaîne, ils ont pas mal de vidéos intéressantes à regarder, même s'il n'y en a pas des nouvelles qui tombent chaque semaine, quoi.
J'essaie justement d'en sortir une chaque semaine pour atteindre ces niveaux-là.
Ouais, c'est pas facile.
Non, avec Zavki, vous êtes tous les deux là.
Il faut pas regarder. Il faut pas se comparer avec Zavki. Il est vraiment trop trop loin, quoi.
Alors là, c'est pas possible. Moi, je me compare pas. Je m'inspire. Et du coup, tu nous disais que les formations, en fait, c'est ce qui te prenait le plus de temps. T'en as sorti deux. Ça représente combien de temps de travail? Justement, entre la préparation de la formation, le tournage, le montage, et puis la faire connaître, parce que je sais que ça représente beaucoup de temps, ne serait-ce que pour une vidéo, mais est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quel volume de temps ça représente, et ne serait-ce qu'en aussi en charge mentale, ce que ça représente de créer des formations comme ça?
Ouais. En temps, Je pense que tu as une partie un petit peu avant de la faire. Il faut savoir. Parce qu'il y a des choses que moi, j'aimerais faire, mais il faut que la formation, je ne la fais pas pour moi, je la fais pour les autres. Donc, il faut avant que je puisse avoir une validation de ce que les gens aimeraient. Donc, c'est pour ça que je fais des petits sondages de temps en temps où je demande simplement aux gens quel sujet vous intéresserait. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à savoir quel sujet aura le plus d'impact. Donc ça prend pas tant de temps, mais c'est quelque chose, faut quand même y penser. Après, il y a faire la formation. Donc là, il y a une période un petit peu de recherche pour pouvoir. Alors ça dépend si c'est, par exemple, là j'ai fait deux formations, une sur Docker, une sur Ansible. Certes, sur Ansible, j'avais très peu d'expérience avec Ansible, donc j'ai eu une assez grosse période de recherche où j'ai lu des bouquins, j'ai lu pas mal de trucs et tout, pour essayer de faire la meilleure formation, de pas dire n'importe quoi en gros quoi. Et donc ouais, j'ai essayé de. Bah, c'est ça, j'ai eu une petite période de recherche de quelques semaines où j'ai essayé de trouver c'est quoi les meilleurs livres dessus, les meilleurs tutos, les meilleures ressources en fait sur Ansible. Bah d'ailleurs, au passage, je pense que les meilleures ressources, c'est celle de Girling Guy. Donc, c'est Jeff Girling, je pense, qui a écrit le livre, qui a écrit plusieurs livres même sur Ansible. Et c'est lui aussi qui est l'auteur des rôles Ansible les plus populaires. Donc, pour Ansible, au final, c'est lui la référence. Pour Docker, c'était un petit peu moins. Long parce que j'utilise Docker presque tous les jours, donc j'ai eu moins besoin de, tu vois, de faire ce travail en amont d'être solide sur la techno. Après, il y a une partie de scaffolding en gros, je vais essayer de faire un plan à peu près cohérent sur comment est-ce que je pense que quelqu'un devrait aborder ce sujet-là. Après, il faut trouver des. C'est ça, à peu près, il faut faire son plan, puis après, en gros, il faut l'exécuter. Ensuite, il faut. Donc là, il y a une partie où je prépare, je fais des exercices ou des exemples ou des choses comme ça. Donc, il faut que je les prépare à l'avance, il faut que je les invente, il faut que je les fasse, il faut que je vois s'ils fonctionnent ou pas, il faut que je corrige ce qui fonctionne pas, blablabla. Et après, c'est ce que seulement après cette partie-là où je peux commencer à enregistrer et à faire en live les exercices que j'ai préparés à l'avance, etc. Et une fois que j'ai tout filmé, des heures et des heures d'enregistrement, bah là il faut passer au montage. Et donc là c'est encore des heures et des heures et des heures. Et après, à la fin, il y a une petite partie marketing où il faut bah, faire en sorte que les gens soient au courant que j'ai fait une formation. Et donc ça passe faire essayer de trouver des sujets annexes pour pouvoir faire des vidéos dessus et envoyer des emails aux gens, raconter des petites histoires intéressantes. Pour que les gens aussi comprennent l'intérêt de la techno que j'apprends en gros quoi. Parce que c'est pas enfin personne va naturellement se dire ah, je veux me mettre à Ansible sans savoir tu vois il faut que j'arrive à expliquer à comment dire à faire comprendre le résultat que tu vas avoir en utilisant Ansible. Tu testes pas Ansible juste pour le plaisir, en gros. Il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui va se passer, à quel endroit tu vas être, à quel point ça va changer ta façon de faire de l'infrastructure quand tu vas utiliser des outils comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de passer à travers des petites histoires, des petites anecdotes. Et donc, ouais. Et donc, tout ça, en termes d'heures, bah, je sais pas, en fait, juste la partie. Il y a plein de parties que je compte pas, mais donc, je compte pas la partie recherche et la partie marketing, blablabla. Mais juste la partie préparer le plan, le filmer et le monter, c'est peut-être 40 heures, quelque chose comme ça, quoi. Et donc après, s'il faut faire, tu sais, pour faire la promotion derrière, si je fais 2-3 vidéos, chaque vidéo, c'est peut-être 4-5 heures, donc tu rajoutes un 10 heures. Donc ouais, ça va vite, quoi.
C'est ce que je me disais, que tu atteignais vite les 60 heures. Et du coup, je sais qu'on est inspiré un peu par les mêmes personnes au niveau du marketing, puisqu'on en a parlé brièvement. Et alors moi, j'ai été étonné parce que, je te l'ai dit même au début, je trouve que vu la quantité de contenu qu'il y a dans tes formations et là où tu vas amener tes apprenants et le prix. Je trouve qu'elles sont vraiment super pas chères, surtout quand on compare aux formations qu'on achète dans nos métiers. Et du coup, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça au prix de tes formations? Est-ce qu'on t'a dit qu'elles n'étaient pas assez chères, que ton contenu était vraiment qualitatif par rapport au prix?
Ouais, donc j'ai eu quelques retours, on m'a dit que c'était pas assez cher, donc du coup je monte les prix petit à petit. Donc prenez-les avant que je monte le prix. Après le truc aussi c'est que je veux pas non plus faire quelque chose qui soit inaccessible. Donc en fait, j'essaie de trouver un milieu entre inaccessible et pas cher, mais d'un autre côté, en fait, ça dépend comment tu te positionnes, parce que parfois les gens ils vont comparer une formation par rapport à une formation Udemy qui va être à 4,99 ou un truc comme ça, et en fait faut comprendre c'est pas possible en fait de faire une formation à 4,99, genre pour que ça soit rentable pour moi il faudrait que j'en vende des milliers quoi, et le fait est que genre les gens qui sont intéressés par le DevOps en français, c'est pas tant que ça, donc c'est juste physiquement pas possible quoi. Donc ça c'est plutôt, ça c'est un côté en gros, et puis après d'un autre côté je pense que la valeur que ça apporte à quelqu'un qui s'y met, quelqu'un qui a jamais, par exemple je prends l'exemple d'Ansible, quelqu'un qui a jamais fait de gestion de config, qui a jamais utilisé d'outils comme Chef, comme Puppet, Salt, Ansible, etc., et qui fait de l'administration au système et qui se met à utiliser ça, donc il suit la formation, puis genre au bout de 4-5 heures il connaît en gros cette techno et puis il a un nouveau skill. Mais pour moi ça fait un peu exagérer si je dis ça change sa vie, mais ça fait une énorme différence et ça va lui donner un énorme boost il va passer un cap en fait dans sa carrière. Donc quand on voit le prix de la formation par rapport à ce que ça peut apporter, le potentiel et la valeur que ça apporte aux gens qui la suivent. Et puis en plus, bon après je dis ça, mais c'est des choses qu'on m'a rapportées. Après, des gens qui ont suivi la formation qui m'ont dit littéralement, ça a changé ma façon de faire de l'infrastructure. Donc, en gros, ce que je dis, c'est pas vraiment une exagération, que ça a vraiment un fort impact pour certaines personnes qui les suivent. Et donc, c'est là où tu vois un peu le contraste entre les formations à 5 euros d'un autre côté et l'autre côté une formation qui peut changer ta carrière quoi. Donc pour moi effectivement moi je le vois plus de ce point là, je vois plus de ce point de vue là, et donc pour moi effectivement mes formations sont entre 100 et 120 euros. 100 euros pour changer ta carrière c'est genre rien du tout quoi, c'est vraiment vraiment rien du tout quoi. Si derrière c'est quelque chose qui te permet d'impressionner ton boss, d'avoir une promotion ou d'avoir un nouveau job et de prendre 5 000, 10 000 euros par an en plus jusqu'à la fin de ta vie, c'est ridicule. Ton retour sur investissement, c'est genre 100 000%, quoi, voire plus. Donc, pour moi, oui, c'est pas trop cher. Après, je veux pas forcément non plus, pour l'instant, faire des trucs qui sont trop inaccessibles. Mais peut-être, c'est possible que je le fasse plus tard. Mais j'aimerais faire quelque chose de plus. De plus engagé. Un truc que j'aimerais vraiment faire, j'ai suivi moi-même une formation pour YouTube, et en gros le mec il faisait comme des classes en fait, et t'avais un rendez-vous donc il y avait plein de cours, plein d'exercices, et puis chaque mois, en fait un petit peu la même chose que ce que je fais avec Open Classroom, chaque semaine on se voyait avec toutes les personnes qui suivaient la formation, et on avait tous essayé de faire le même exercice pendant cette semaine, et puis ensuite on discutait pendant une heure et demie, on essayait de voir ce qu'on avait bien fait, ce qu'on avait mal fait, etc. Donc on discutait avec le mec en question qui expliquait, mais aussi avec les autres personnes de la formation, et moi je trouvais ça super super cool, et donc c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire, et là pour le coup c'est peut-être quelque chose qui serait un peu plus cher quoi.
Oui, je pensais vraiment moi aussi à mettre en place du mentorat et à le vendre en tant que service, que je compte aussi faire des formations, et du coup allez voir dans la description du podcast, il y a les liens des formations de Thomas.
Changez
votre vie, clairement elles sont pas assez chères. Moi des formations comme ça je les aurais vendues beaucoup plus cher. Aujourd'hui je suis en train justement de repenser ma méthode de créer des formations, puisque finalement des formations aussi grosses, je me sens pas d'en sortir régulièrement et je me dis peut-être des formations plus courtes seraient intéressantes.
Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Je pense on, comme tu disais tout à l'heure, on a les mêmes influences, donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi. Donc là, je suis en train de penser à à faire une formation sur sur Git, donc un petit peu dans le sens Git pour sysadmin. Donc là, je suis plus dans la phase de recherche parce que c'est quelque chose aussi. Cette formation, je l'ai fait un petit peu pour moi parce que ça vient un petit peu de la frustration que j'ai. Git, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Et les trucs de base, j'y arrive, mais je comprends pas toujours ce que je fais. Donc parfois, je me retrouve dans des situations où je sais pas comment en sortir. Donc on se retrouve à bêtement cloner le repo de zéro, puis recommencer en gros quoi, copier, faire des copier-coller et tout. Alors que je sais que c'est pas la bonne manière. Je sais qu'il y a probablement une commande qui fait ça automatiquement dans Git, mais c'est juste que je comprends pas. J'ai jamais pris le temps, tu vois, de comprendre. Comment ça fonctionnait. Et donc, je me suis dit, bah là, ça sera l'occasion de faire un peu une pierre de coup, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Surtout que, tu sais, Git, c'est plus un outil de développeur, donc pour les sysadmins, c'est quelque chose qui est peut-être qui est un peu obscur. Et ça, de faire une pierre de coup, d'une fois, pour faire la formation, je vais être obligé de bien connaître la techno. Et en plus de ça, je pense que ça peut intéresser des gens. Puis comme j'ai les données aussi des sondages que j'ai faits, je sais aussi que ça intéresse des gens. Donc c'est tout bénef pour tout le monde.
Ça intéresse plein de gens. Et même, je vais te dire, je travaille avec beaucoup de développeurs. Et même les développeurs, parfois Git, ils ont du mal. Moi, j'ai envie de faire un truc comme ça aussi, une formation Git, mais pas apprendre aux gens à utiliser Git. C'est, vous êtes dans la merde avec Git. On va explorer votre problème et je vais vous raconter, enfin, je vais vous dire comment vous en sortir. Et prendre plein de cas comme ça, bizarres que j'ai trouvé. Mais je peux te dire, j'en ai eu des, avec des stagiaires là, des trucs, mais genre le commit de base, il n'existait pas. On ne savait pas d'où il partait, la branche, d'où elle partait. Enfin, des trucs.
Mais je pense que c'est une super bonne approche, le fait de, en gros, comment sortir de la merde quand on est avec Git. Je pense que c'est une bonne approche, parce que ça, je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens. En tout cas, avec moi, ça résonne. Moi, je cliquerai dessus, si tu ferais ça.
Et ben, ce sera l'an prochain, probablement. Là, j'ai d'autres formations prévues pour cette fin d'année. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Et justement, on parlait d'inspiration. Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube qui t'inspirent, qu'elles soient tech d'ailleurs ou pas tech? Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube, toi, si tu as envie de faire monter quelques chaînes ou même d'ouvrir les chakras de nos auditeurs et auditrices.
Dans le même thème où on est, t'as bien sûr Xavki le prolifique qui sort une vidéo par jour. Une vidéo par jour et qui fait énormément de sur tous les outils qui tournent autour du DevOps, donc que ça soit Prometheus, Kubernetes. Ansible, tout ce que tu veux, n'importe quoi que tu as vu un outil que tu te demandes comment l'utiliser, tu vas sur la chaîne de Xavki, tu vas le trouver. Il a fait une série de 20 vidéos dessus, c'est sûr.
T'as vu qu'à un moment, il faut faire plus qu'une vidéo par jour.
Ouais, non, mais je sais pas comment. comment
il dort pas beaucoup, je pense.
Il fait des vidéos pendant son sommeil, je pense. T'as la chaîne de Christophe Casalegno. Donc, Christophe, j'ai découvert parce qu'en fait, j'ai fait un live et puis il est venu sur un de mes lives. Et à chaque fois que je fais des lives, mon plan, c'est de faire un truc. Mais sauf que la plupart du temps, en fait, je sais pas vraiment, tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Donc, du coup, je suis un petit peu hésitant, je sais pas trop comment faire, etc. Et ce qui est super cool, c'est qu'à chaque fois, il y a quelqu'un sur le live qui vient me donner une leçon, en fait, qui vient m'expliquer, me dire, mais non, c'est pas comme ça. Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses telle commande, t'as oublié tel argument, etc. Et Christophe, c'est une de ces personnes qui est super, super cool, super sympa, qui est venu m'aider sur plusieurs de mes lives. Donc quand je vois son nom dans le chat, je sais que ça va bien se passer. Et donc du coup, et c'est petit à petit que j'ai, en fait, il me l'a dit super un petit peu longtemps après, qu'il avait lui-même une chaîne YouTube sur l'administration système. Et sa chaîne est pareil, sa chaîne est super cool, il fait des vidéos, là, une des dernières vidéos qu'il a faites, c'était sur comment faire des bons scripts bash. Donc en gros, il développe un script bash en live pour pouvoir, et puis il t'explique en gros comment c'est quoi les bonnes pratiques, quoi, comment est-ce qu'il, tu vois, que, pourquoi est-ce qu'il prend telle ou telle décision. Et donc, il a plein de petits sujets comme ça autour de l'administration au système. Et donc, sa chaîne est super cool. Il vient de passer les 1000 subscribers là récemment, donc il monte aussi assez vite.
Il a dépassé les 1500.
Ouais, bah, c'est ça, il monte super vite.
Je sais pas si, parce que tu m'as dit que tu n'avais pas vu qu'il avait une chaîne YouTube, je sais pas si tu as installé Top Body, mais quand tu installes Top Body, dans les commentaires, il te dit directement combien a d'abonnés la personne. Et moi, ça me permet de voir les gens qui ont des chaînes YouTube ou pas.
Ah, ok. Mais là, c'était dans le... Moi, je parlais juste avec lui dans le chat du live. Donc peut-être que ça
d'accord.
Te... En fait, sur le moment, j'avais pas vu, quoi. C'est juste parce qu'en fait, au bout d'un moment, il me donnait tellement de conseils. Je me suis dit, mais Christophe, mais c'est toi qui dois faire une chaîne YouTube. C'est pas moi, je connais rien. Il faudrait que tu le fasses. Il me dit, mais oui, mais j'en ai une. Et c'est là que... Donc, c'est là que j'ai compris qu'il avait effectivement une chaîne YouTube. Et puis aussi, ouais, donc il y avait une chaîne donc, qui est un petit peu plus grosse, mais que je trouve qui est vraiment cool, qui s'appelle Imotech, donc I-M-O-T, il y a un 3 à la place du E, donc I-M-O-T-3-K, et c'est une chaîne, en fait, c'est, je sais pas exactement quel âge il a, l'air assez jeune, peut-être qu'il a, je sais pas, je pense qu'il a 18-19 max, et en fait, c'est un étudiant qui est un peu tombé dans l'administration système, mais un peu malgré lui. En fait, je pense qu'il se rend pas compte qu'il fait de l'administration système, parce qu'à la base, il lui faisait des vidéos sur Minecraft, et donc il a voulu avoir son propre serveur Minecraft, donc il l'a installé sur son ordi, et puis finalement, il s'est rendu compte que c'était pas l'idéal, donc il veut l'installer ailleurs, et donc ailleurs, finalement, c'est pas non plus l'idéal, et petit à petit, il se retrouve à monter un mini data center chez lui, dans sa cave, etc. Et donc, il parle de réseau, il parle de comment installer des serveurs, des services, etc. Pareil, comme il veut monter ses vidéos, du coup il a besoin d'un NAS, etc. Donc petit à petit, en gros, il se monte un petit peu une infra chez lui, et donc il parle de... Et puis ça se voit qu'il est, il est absolument passionné par ce qu'il fait. Et donc ouais, c'est un peu une inspiration, dans le sens où il raconte sa vie, en gros, et puis il fait ce que nous on fait comme métier, mais sauf que lui, c'est vraiment... Il le fait par pure passion, quoi. Et donc, c'est vraiment inspirant aussi là-dessus. Une autre chaîne aussi qui m'a inspiré, qui, là, pour le coup, qui n'est pas vraiment... qui n'est pas tant sysadmin. Là, j'essaie de citer le plus de chaînes qui sont autour du sysadmin, DevOps, etc., parce qu'il n'y en a vraiment pas tant. Et ouais, une autre chaîne qui, moi, personnellement, m'a beaucoup inspiré, c'est la chaîne de Harry JMG. Là, c'est plus dans... alors que lui, c'est plus une chaîne de développement à la base. Lui, il fait du développement Ruby on Rails, et c'est plus le style qui m'a inspiré, le style un petit peu où on le suit dans ses aventures. En fait, il raconte un petit peu sa vie, comment est-ce que ça se passe une journée au travail, comment est-ce que ça se passe une journée chez lui, comment est-ce qu'il a fait pour, parce qu'en plus aussi son parcours est assez inspirant, parce qu'il était livreur Uber au départ. Et il faisait l'école 42. Et donc, il a fait 2-3 ans d'école 42. Je pense qu'il a laissé tomber au bout d'un moment. Puis, il s'est mis freelance pour faire ses petits trucs, etc. Et donc, en fait, on voit toutes les... C'est vraiment... Sa chaîne, elle documente sa vie, en fait. Et donc, à la base, sa chaîne n'était pas du tout sur le développement. Mais petit à petit, au départ, sa chaîne, c'était sur... On le voyait, il était sur son vélo en train de livrer ses Big Mac et ses burgers aux gens. Et puis petit à petit, tu le vois évoluer, tu le vois aller à l'école, tu le vois aller quitter l'école pour devenir freelance, pour faire ses propres programmes, ses propres petites entreprises, etc. Et tout ça fait avec une décontraction et un humour qui moi m'a vraiment beaucoup inspiré pour mon propre style de vidéo. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé, Et bien sûr, on a la chaîne les compagnons du DevOps. Qui fait des podcasts et des vidéos. Genre, je t'avais dit, j'avais beaucoup aimé ta, parce que justement, je suis en train de me renseigner sur Git en ce moment, ta vidéo sur les différents workflows Git.
Ah oui.
Parce que justement, c'était sur le moment, j'étais en train de chercher quelque chose là-dessus, et je trouvais pas de bonnes ressources, parce que j'avais des ressources moi, mais en anglais, quoi, mais je trouvais pas de bonnes ressources en français, et encore moins en vidéo. Et donc, tu l'avais sorti juste quelques semaines avant que je me mette à me renseigner là-dessus. Et donc, j'ai trouvé ça super cool, super, super bon résumé de ce que j'avais mis pas mal de temps à comprendre. Donc, si vous regardez ce podcast, peut-être que vous êtes déjà abonné au Compagnon du DevOps, mais si c'est pas le cas, il faut y aller.
Bah oui, abonnez-vous. En fait, le podcast il est diffusé sur les applications et puis sur YouTube, donc ça dépend d'où les gens nous écoutent.
Ok. Bah maintenant, ils sont au courant que c'est dispo sur YouTube aussi.
Tout à fait. Une grosse chaîne. Une petite chaîne qui monte.
Petit à petit.
Petit à petit. Est-ce que tu as d'autres inspirations ? Peut-être qui sortent de la tech ? Dont tu voudrais parler, hein, je te force pas.
En inspiration, non, pas tant. Il y a aussi Cookie Connecté, que j'ai oublié de parler, qui était aussi... ça m'a plus inspiré. Donc Cookie Connecté, il fait des vidéos, pareil, sur le... Il explique plus des concepts. Donc ça tourne quand même assez souvent autour de l'administration de système. Je pense que lui, il est architecte système ou quelque chose comme ça. Donc il explique des concepts comme c'est quoi le DNS, c'est quoi Active Directory, c'est quoi TCP/IP, c'est quoi comment ça marche Docker, c'est quoi la virtualisation, etc. Et il explique ça aussi de manière super super décontractée, avec des petits dessins, avec des emojis, des trucs comme ça. Et donc je trouve que c'est super comment dire, ça donne envie de regarder quoi. Et c'est ça, je trouve ça c'est vraiment inspirant dans le sens où tout le monde, enfin on s'en fout de comment ça marche le DHCP, tu vois. Genre, ça intéresse personne. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que de manière tout seul, genre, donc ce terme-là, tout court, on s'en fout de ce que c'est, de ce que ça fait, etc. Et donc, essayer de présenter des sujets aussi sombres, aussi, tu vois, que je sais pas comment dire, pas sombres, mais obscurs, un petit peu, et de manière aussi de présenter ces sujets d'une manière où t'as envie de le regarder, où c'est bien expliqué, où c'est dynamique, ça c'est visuel, et bien ça je trouve que c'est vraiment très très fort. Donc ouais, c'est une des chaînes qui m'a, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait autour de ça, et quand je suis tombé dessus, j'étais vraiment vraiment impressionné quoi.
Moi j'aime beaucoup aussi Cookie Connecté parce que il y a cet aspect visuel et dessin qui est vraiment didactique. J'aime énormément.
Ouais. C'est très difficile hein, d'imager des concepts techniques qui parfois sont assez avancés. Quoi. Parce que il y a plein d'autres thématiques sur YouTube où c'est facile d'imager. Je ne sais pas si tu fais du gaming, là c'est facile, tu peux montrer des images de jeux. Si tu fais du jardinage, tu peux montrer tes fleurs, etc. Tu peux très souvent, tu vois, c'est assez facile d'illustrer ce que tu es en train de faire, alors que l'administration système, c'est très difficile, je trouve. Et donc, ceux qui arrivent à imager ça, je trouve c'est... Et à l'imager et à le rendre attrayant, je trouve c'est très, très fort, quoi.
Et compréhensible, en plus.
Ouais, ouais. C'est ça aussi. Puis aussi, arriver à expliquer les choses... à quelqu'un qui connaît pas du tout, c'est pas un skill qui est donné à tout le monde aussi quoi. Ça c'est quelque chose qui s'apprend et qui demande beaucoup d'empathie, je pense.
C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos en plus du podcast, parce qu'il y a des choses en podcast ça passe pas du tout, hein. Même tu les expliques, l'imaginer c'est... Alors du coup je me suis dit, moi, je vais faire des vidéos aussi, parce que tu vas le voir, Workflow Guide, j'avais fait un épisode de podcast du pourquoi, mais l'explication, il fallait que je passe en vidéo, c'était pas possible autrement.
Ok, ouais. Ouais, bah oui, parce qu'il y a des choses, ouais, c'est difficile de faire passer le message, quoi, avec juste l'audio, quoi.
En parlant de faire passer un message, est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à nos auditeurs, une conférence qu'elle soit vidéo ou carrément, allez, bon, en ce moment c'est un peu compliqué avec le Covid, mais tu auras compris l'idée.
C'est vrai que tu m'avais envoyé la liste des questions, puis j'avais vu cette question, mais j'aurais dû me préparer avant et j'ai un peu oublié. Un livre ou une conférence, quelque chose de technique ou quelque chose de...
Ah, c'est toi qui choisis le conseil que tu donnes.
N'importe quoi.
Ah oui, oui. Tu sais, moi je suis aussi dans la culture, j'explore des choses qui sont pas que DevOps.
Donc, alors, attends, donne-moi une seconde. J'ai un livre ici que je viens de recevoir, qui est un de mes livres préférés, que j'ai lu, que j'ai écouté en audiobook, et je l'ai tellement aimé, je l'ai écouté 2-3 fois, et j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en physique, qui s'appelle, donc là tu le vois peut-être pas encore, mais je le montre à la caméra, qui s'appelle The War of Art. Donc la guerre de l'art. Donc c'est un petit peu un jeu de mots avec The Art of War, tu sais, le livre de Sun Tzu qu'on peut trouver gratuitement un peu partout. Et c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup aidé pour arriver à me bouger le cul, en gros, pour dire les choses simplement. En fait, c'est l'histoire c'est l'histoire de l'auteur, hein, qui, lui, à la base, il faisait des... il voulait devenir écrivain. Et donc, il a écrit pas mal de livres. Il a commencé beaucoup de petites histoires, de petits livres, etc. Mais il n'a jamais fini. Et du coup, dans sa vie, ça se passe pas très très bien. Il s'en sort pas trop. Et donc, au bout d'un moment, il se dit, bon, bah là, au bout d'un moment, ça lui prend du temps. Hein. Je sais plus à quel âge il commence à s'en rendre compte, mais assez tard dans sa vie, hein, peut-être, je sais pas, à 40 et quelques. Il se dit, bon, là, ça suffit. Je veux devenir écrivain. J'ai jamais réussi à finir un truc. Je suis toujours arrêté à la moitié. Donc, à partir de maintenant, je m'enferme dans une cabane. J'écris mon livre, je fais que ça, et je fais rien d'autre. De toute manière, je peux rien faire d'autre. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de la grosse merde jusqu'à présent. Donc là, je fais ça ou je fais rien. En gros, c'est limite, je fais ça ou je me suicide, quoi. Et donc, il écrit son livre, et au bout de 2-3 mois, il ressort. Et puis là, il est vrai. Il a réussi en gros à finir quelque chose, son premier ouvrage. Donc je vais peut-être pas faire le résumé de tout le livre, mais en gros il raconte son histoire, et donc au final, bon, son tout premier ouvrage, au final, tu sais, c'est de la grosse merde, et donc il t'explique, bah, comment toute la suite de l'histoire, comment est-ce qu'il a fait pour arriver à se motiver à faire ça. Et c'est quelque chose qui a vraiment résonné avec moi, parce que c'est un peu, comment dire, ça résonne avec moi parce que tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube, mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, tu sais, qui ont quelque chose, qui se disent « Ah, ça serait bien un jour je vais faire ça. » Mais un jour, tu vois, 10 ans plus tard, c'est toujours un jour. Et ce livre, il m'a aidé en gros à me dire « Bon, bah là, ok, c'est ça que tu veux faire, et donc, il faut que tu le fasses. Et bon, maintenant, si tu le fais à fond. Maintenant, tu prends ton truc, au lieu de le prendre comme un hobby, maintenant tu le prends comme si c'était ton métier. Et c'est ça aussi qui m'a aidé. Les périodes où j'étais les plus régulières, c'est souvent les périodes où j'étais un peu en train de relire ce livre-là. Et donc, en gros, je prenais ça, mes vidéos YouTube, même si ça me rapporte pas tant, ça me rapporte un petit peu, mais pas tant que ça par rapport à mon travail. Et ben, je le prends comme si c'est mon métier. Et donc, je réfléchis pas, en fait. Je le fais. Parfois, je me faisais exprès de pas rentrer chez moi pour aller dans un espace de coworking, puis quitte à payer toute la journée, mais de rester là-bas juste une heure et demie pour me forcer à faire ce que je dois faire, à préparer mes vidéos, etc. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. The War of Art de Steven Pressfield.
Bah merci, je mettrai le lien en description aussi de toutes les chaînes aussi que tu nous as citées. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai une dernière question pour toi. Elle va être facile, celle-là. Si nos auditrices et auditeurs veulent te retrouver, où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils vont sur YouTube ? Est-ce qu'ils vont ailleurs ?
Bon, sur YouTube, CocAdmin. Donc, vous tapez CocAdmin. C'est comme Coca et comme Admin, sauf que le A du milieu, il n'y en a qu'un seul. Et puis c'est ça, pour que vous pouvez aller voir les petites histoires que je raconte sur YouTube. Et si jamais vous êtes intéressé à changer votre vie ou à apprendre des technos comme Docker, comme Ansible ou Git, et bah vous pouvez aller sur vous irez sur ma chaîne, vous trouverez les liens. Il y a les liens de temps en temps vers en fait dans toutes mes vidéos, il y a les liens vers mon site où il y a mes formations. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y.
Bah, je les mettrai directement, comme ça, ils pourront aller directement cliquer. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de changer leur vie.
Ils ont raison.
En tout cas, je te remercie, surtout pour l'histoire de Linux, parce que je l'ai fortement apprécié. Ça m'a remis les idées Ça m'a replongé dans l'histoire que je connaissais de loin et du coup c'était plus clair pour moi.
Nice. Mais j'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là parce que, bah, tu sais, comme je te dis, j'ai fait un petit peu une petite période de recherche à essayer de voir, t'es comprendre l'histoire. Et puis au fur et à mesure que, tu sais, après je la racontais, je me disais, ah, mais du coup ça fait pas de sens. Du coup, je me replongeais un peu dans l'histoire pour comprendre, aller chercher les petits détails. Et puis aussi essayer de trouver le petit truc croustillant qui va faire que tu as envie de cliquer sur la vidéo, tu vois. Parce que c'est une chose de raconter l'histoire, mais c'est une chose donner l'intérêt, de faire en sorte que les gens aient envie de faire du... Pour caricaturer, de faire du clickbait un petit peu, de faire en sorte que les gens aient envie de cliquer, aient envie de voir la vidéo, quoi. Et donc pour ça, j'aime fouiller dans l'histoire pour trouver la petite perle, la petite anecdote qui va faire que je vais faire tourner le titre ou le thumbnail autour de ça, quoi. Et ça va te donner envie d'en savoir plus.
Eh ben écoute, merci. C'est le mot de la fin, je pense.
Et yes.
Je vais dire au revoir à tous les auditeurs et auditrices et à bientôt pour un prochain podcast. Et merci Thomas, je te dis à bientôt.
Merci à toi. Au revoir tout le monde.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.